Et sur Radio Shalom, nous a rejoint dans les studios Sylvain Attal, bonsoir.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Alors comme chaque semaine avec vous, nous allons tenter de comprendre comment va le monde. Nous allons parler ce soir, bien évidemment, encore un peu du coronavirus, mais surtout des vaccins et de l'Union européenne. Vous avez écouté la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex avec les déclarations aussi du ministre de la Santé, Olivier Véran. 20 départements sont dans une situation assez compliquée, et notamment toute l'Île-de-France, et il est fort possible que le 6 mars prochain, eh bien, ces départements qui sont actuellement en surveillance, eh bien, connaissent le même sort que Dunkerque ou les Alpes-Maritimes, c'est-à-dire un confinement le week-end.
Oui, mais alors moi, je vais vous parler plutôt des vaccins, parce que confinement, couvre-feu, on voit bien que tout ça, c'est assez approximatif. La seule chose qui va nous sortir d'affaire, ce sont les vaccins. Le reste est littérature. Et la saga des anti-Covid est en train de rebattre les cartes de la puissance au point qu'on peut parler d'une véritable géopolitique des vaccins qui sont en passe de devenir pour les États le nouvel étalon de la puissance. Et ça saute aux yeux, évidemment, particulièrement avec Israël, qui est en train de changer de statut, d'image, qui est en train de réaliser une opération de relations publiques planétaires absolument extraordinaire en ayant réussi le tour de force de vacciner la moitié, même davantage, de sa population en quelques semaines. Alors, certes, il y a eu un début de polémique autour du traitement des prisonniers palestiniens, puis de la population palestinienne dans son ensemble, mais on voit bien qu'elle est en train de s'éteindre progressivement au fur et à mesure que les vaccins vont être aussi mis à disposition des populations arabes. Bien sûr, Israël, vous allez me dire, c'est un pays relativement peu peuplé, surtout peu étendu. Il n'y a pas les mêmes problèmes logistiques que la Chine, évidemment, ou même que les pays de l'Union européenne. Mais néanmoins, son gouvernement a fait preuve de réactivité et de pragmatisme, et même jusqu'à l'idée d'un passeport vaccinal ne fait absolument pas l'ombre du début de débat en Israël. Mais ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas le fait qu'il y a eu quand même une absence de réactivité, et particulièrement au sein de l'Union européenne.
Alors, justement, c'est ce qu'on retiendra jusqu'ici. Est-ce qu'on peut parler de l'échec de l'Union européenne ? Parce que tous les pays se sont concertés pour les vaccins. Chaque pays n'a pas réagi, je dirais, de façon individuelle. On a voulu, à l'échelon européen, avoir une politique commune d'achat de vaccins.
Oui, mais ça n'a pas marché pour des raisons très complexes qu'on peut commencer à examiner, mais pour des raisons très complexes. Mais en vérité, l'échec de l'Union européenne, il est surtout patent. On va pas le comparer avec Israël, pas la même taille, mais on peut comparer par exemple avec l'expérience britannique. 15 millions de Britanniques vaccinés en un mois et encore 2 millions par la suite, c'est bien plus que dans les autres pays de l'Union européenne, particulièrement en France, où on est péniblement à 2 millions et demi de vaccinés, c'est-à-dire à peine 5% de la population. On a l'impression que la campagne, qui a été lancée déjà avec un mois de retard, n'a pas réellement pris son envol en raison des difficultés d'approvisionnement. Alors bien sûr, il y a le fait qu'AstraZeneca, c'est un laboratoire britannico-suédois, bon, ça a été un avantage. La France et les autres pays européens payent effectivement lourdement la défaillance de la recherche, qui est un vrai sujet d'ailleurs d'interrogation pour le futur. Pour la France, il faut ajouter aussi le problème du millefeuille de l'organisation du système de santé, extrêmement bureaucratique, compliqué, qui a été un handicap supplémentaire. Encore une fois, la France apparaît comme suradministrée et sous-gouvernée dans cette affaire comme dans d'autres. Ce tableau catastrophique est bien sûr imputable, vous l'avez dit, aux lenteurs bureaucratiques de l'Union européenne. On a voulu bien faire. On a voulu effectivement se coordonner, l'Union fait la force, vous savez, mais bon, là, l'Union n'a pas fait la force. Quand on est en situation de crise, on a même dit qu'on était en situation de guerre. Dans ces cas particuliers, on ne suit pas les mêmes procédures qu'en temps normal. Bref, on n'a pas compris que c'était une guerre de mouvement et pas une guerre de tranchées. En fait, ça rappelle un peu l'erreur, si vous voulez, pardonnez-moi la comparaison, l'erreur française face à l'Allemagne nazie en 39-40. On voit mal d'ailleurs comment les Français, qu'ils souhaitent, seraient vaccinés tous avant la fin de l'été, c'est la promesse d'Emmanuel Macron, quand dans le même temps, le Royaume-Uni annonce que l'ensemble de sa population aura reçu au moins une première injection fin juillet. Ça pose d'ailleurs aussi la question de la stratégie vaccinale. Nous, on a commencé en France par vacciner les plus exposés, les plus vulnérables. mais qui ne sont pas ceux qui transmettent le plus le virus. Ceux qui transmettent le plus le virus sont les actifs, sont aussi les enfants. Il y a certains pays qui disent aujourd'hui qu'il faudrait commencer par vacciner les enfants. Là encore, il y a aussi le fait qu'on se soit accroché au protocole des deux injections. Vous savez, la France et les autres pays européens ont fait ce choix. On sera sans doute mieux vaccinés que les autres, mais beaucoup plus tard. Et entre-temps, des gens continueront d'encombrer les hôpitaux, parfois même de mourir. Et donc, ça veut dire que la vie va reprendre encore plus tard chez nous et avec elle notre économie. Et sans parler aussi, je voudrais quand même en dire un mot, de ce problème, de ce programme COVAX qui vise à envoyer en Afrique à peu près 5% des vaccins dans les pays les plus pauvres. Ça va être difficile de le faire accepter quand il y a aussi peu de personnes vaccinées dans notre pays.
Il y a le même cas en Israël en ce moment, puisque le Premier ministre a annoncé des doses de vaccins pour bon nombre de pays, et ça provoque en Israël un vrai débat, parce que il y a plus de vaccins que de gens qui veulent se faire vacciner, mais c'est un autre problème. Alors, revenons sur l'Union européenne. Sylvain Attal, qu'est-ce qu'on fait avec l'Union européenne ? Finalement, il faut jeter le bébé européen avec l'eau du bain ?
Peut-être pas. L'avenir dira à quel point l'aversion au risque, notamment au risque juridique, aura enfoncé les Européens dans cette mouise. Les citoyens européens retiendront en tout cas que l'Europe ne les a pas protégés du Covid. Ça ne va pas améliorer l'image de l'Union. Toutefois, rien ne permet d'affirmer que la France s'en serait mieux sortie toute seule, puisque en fait, le fond du problème, c'est que la recherche française n'a pas trouvé de vaccin. Et la leçon à retenir, c'est qu'il faudrait non pas moins d'Europe, mais mieux d'Europe, si vous voulez, en matière de recherche. En tout cas, on n'a pas réussi aussi à décréter, ce qu'il aurait fallu faire sans doute, la mobilisation générale, peut-être même la réquisition des capacités de production pour produire en France les vaccins, même des vaccins découverts par les autres. Ce qui sera fait, ça va être fait en France, mais pas avant l'été, c'est-à-dire que ça va prendre encore des mois. Il faudrait donc moins de réglementation, de bureaucratie et plus de moyens. Or, l'Union européenne, au lieu d'être un moteur, ne s'avère qu'une productrice de normes, parfois en décalage complet avec l'urgence de la situation. Je ne prendrai qu'un seul exemple, c'est la manière dont Bruxelles, je parle de la commission de Bruxelles, au lieu de se mettre en ordre de bataille, rappelle à l'ordre des pays qui, comme l'Allemagne, la Belgique, la France aussi, ont fermé leurs frontières. C'est-à-dire que pour Bruxelles, l'exigence de la libre circulation, ça passe avant la protection des citoyens. Donc, c'est ce mythe aussi de l'égalité de traitement qui est en train de s'effondrer. Non seulement tous les pays ne sont pas dans la même situation, mais même au sein d'un même pays, toutes les régions appellent une exigence de traitement différent. La Bretagne ne devrait pas recevoir autant de doses de vaccins par habitant que les Alpes-Maritimes ou le Nord. Donc l'Europe se sera montrée en dessous de la situation, l'impact sur l'avenir de l'Union aux yeux de ses citoyens sera durable. Déjà certains pays, on le voit comme la Hongrie, décident de faire cavalier seul et de se fournir en vaccins russes Sputnik. Officiellement, l'Union européenne ne prend pas les vaccins russes parce qu'ils n'auraient pas passé tous les filtres de l'homologation. C'est vrai, mais en vérité, la véritable raison, elle est politique. C'est qu'on voit bien que les Russes se servent de leur vaccin, parce qu'eux, ils ont découvert un vaccin quand même, comme un instrument de soft power qui leur permet un peu de narguer l'Union européenne, qui est quand même leur némésis, leur ennemi intime. Moscou affirme donc que le refus des Européens est motivé par des raisons politiques et non pas sanitaires. Et sur ce coup-là, les Russes ont raison.
Alors, deux questions encore avec vous, Sylvain Attal. Il nous reste 3 minutes. Les États-Unis, la situation est difficile hein, chez eux. Mais comment s'en sortent-ils ? On a découvert aujourd'hui un nouveau variant, cette fois à New York, et les États-Unis qui ont dépassé la barre des 500 000 morts.
Alors, les nouveaux variants, moi, je ne vais pas rentrer sur ce terrain parce que c'est vraiment l'inconnu total. Je ne me sens pas qualifié. En tout cas, ce qu'on remarque aux États-Unis, c'est qu'après, effectivement, ce début catastrophique, un demi-million de morts, 500 000 morts quand même. Les contaminations sont en baisse de 70% sur les 28 derniers jours et le nombre de morts a baissé de 40%. Et ça, c'est de toute évidence l'effet du vaccin, peut-être additionné à un début d'immunité collective, puisque c'est vrai qu'il y a eu tellement de gens qui ont attrapé le virus. Et puis, il y a le dernier vaccin américain, Johnson & Johnson, qui arrive bientôt et dont on dit qu'il est efficace à plus de 70% et qu'il protège des contaminations.
Un mot sur la Chine ?
Oui, très rapidement pour finir. La Chine, d'où nous vient ce virus et qui apparaît comme la grande triomphatrice de cette crise, elle n'en paiera jamais le prix, d'ailleurs, car tout le monde a peur d'elle, je l'ai déjà dit. C'est un trou noir, en fait. On n'a pas suffisamment d'informations sur ce qui s'y passe. C'est vrai qu'elle a, elle aussi, un vaccin, mais est-ce qu'elle sera en mesure de produire ce vaccin pour vacciner, 1 milliard 300 millions de personnes? Ça paraît difficile de l'imaginer, mais enfin, la Chine, elle a ses propres règles, qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. C'est pas sûr, par exemple, que les Ouïghours profitent un jour du vaccin chinois.
Sylvain Attal, comme chaque semaine sur Radio Shalom, pour tenter de comprendre comment va le monde. Merci Sylvain, bonsoir.
Merci Pierre, bonsoir à tous.